décidé d'avoir un prix littéraire qui a démarré en 2010, qui en est à sa 8e édition et qui chaque année sélectionne un lauréat parmi des ouvrages, des romans sortis dans l'année de langue française qui parlent de l'exil, des migrations et des problématiques identitaires. Donc en fait, je pense que cette première table ronde va essayer d'analyser les modalités d'échange, de relations, de collaboration entre deux démarches, deux perceptions des faits migratoires, la démarche de sciences humaines, la démarche littéraire, de la création littéraire, mais aussi de la mise en récit, notamment à travers le témoignage de Laetitia Thura, qui est à ma gauche et qui est réalisatrice de documentaires. Donc pour interroger ces formes de relations, de complémentarité, d'inspiration, nous avons un panel d'intervenants très différents. Donc Laetitia Thura, qui est une jeune réalisatrice, qui a fait un formidable documentaire qui s'appelle Les Messagers en 2013-2014, qui a été toute une année résidente au Musée national d'histoire de l'immigration pour réaliser un court-métrage à partir notamment de la Galerie des Dons, qui est aussi une forme de mise en récit des histoires singulières de migrants, anciens migrants, qui ont bien voulu donner des objets et des récits au Musée de l'histoire de l'immigration. Jérémy Béchon, qui est à mes côtés, qui est fondateur, directeur de la compagnie Manifeste Rien à Marseille, qui a de nombreuses, très nombreuses collaborations avec des chercheurs de sciences humaines sur tous ces sujets liés aux migrations, et qui va nous parler plus particulièrement de sa relation avec Tassadit Yassine, qui est à ma droite, anthropologue, directrice d'études à l'école et aux études en sciences sociales, et qui donc, tous les deux, vont nous faire un duo pour expliquer comment ils ont travaillé ensemble à partir d'un ouvrage de Tassadit Yassine. Et ensuite Michel Agier, à qui je passe tout de suite la parole, qui est anthropologue, qui est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, mais aussi directeur d'études à l'Institut, à l'École d'études en sciences humaines. Donc Michel Agier, vous avez vous avez publié de nombreux ouvrages autour de la situation des camps humanitaires, sur les situations de la condition cosmopolite. Vous avez plus particulièrement réfléchi à cette condition du migrant qui est en marge des sociétés, auxquels ils n'appartiennent pas et où ils souhaitent s'insérer. Et vous allez nous parler plus particulièrement de cette mise en théâtre, mise en scène théâtrale, de l'ouvrage que vous avez publié en 2011 qui s'intitulait « Le couloir des exilés, être étranger dans un monde commun ». Donc la première peut-être question qu'on peut vous poser, c'est pourquoi une collaboration avec le théâtre ? Est-ce que la collaboration est née de l'intérêt de vos partenaires de reprendre les questionnements que vous abordiez dans cet ouvrage ? Ou est-ce que, par ailleurs, vous souhaitiez élargir les modes de diffusion en dehors, bien sûr, d'éditions scientifiques à travers des revues et des ouvrages qui paraissent dans certaines maisons d'édition ? Est-ce que c'était pour aller contre ce cloisonnement disciplinaire, faire jaillir de nouvelles formes d'interrogation et formes même de récits. Est-ce qu'on peut avoir votre témoignage sur ce partenariat-là ?
Bien, bonjour et merci pour cette invitation. Alors, c'est un peu particulier parce que cette affaire est un long processus qui est en train déjà d'aboutir là en ce moment, ces jours-ci, avec des représentations théâtrales qui ont lieu dans la région de Limoges et qui viendront dans la Maison de la Culture 93 au mois de mars, et puis à la Maison des Métallos à Paris au mois de mars-avril, je crois. Alors c'est un processus assez long. Le metteur en scène, acteur, ancien administrateur de la Comédie Française, Marcel Baudonnet, m'avait contacté en 2012 via notre collègue Gérard Noiriel, qui lui-même était déjà très engagé dans cette mise en théâtre, dans cette relation entre l'écriture de l'historien et la forme théâtrale. Et donc Marcel Baudonnet m'avait contacté parce qu'il avait lu l'ouvrage « Le couloir des exilés ». Alors, je crois que déjà, je pense qu'il faut faire un point. C'est-à-dire que je pense que ce livre-là, effectivement, j'écris pas mal de livres, c'est aussi ma forme, et je pense que c'est la forme par laquelle les chercheurs en sciences sociales doivent rendre leur recherche publique. Je me situe dans ce qu'on appelle l'anthropologie publique. Il faut que ce qu'on fasse soit public, il faut que le public réagisse. Et donc j'avais écrit ce petit essai, Le couloir des exilés, d'une manière à la fois assez personnelle et assez en marge, un petit peu en marge, bien que se nourrissant de mes activités de recherche. Et donc ça partait d'un trouble que je ressentais à mener depuis un certain nombre d'années des enquêtes auprès de personnes qui paraissaient être dans une espèce de no man's land permanent, un exil permanent à l'intérieur du même monde que nous. Et donc c'est pour ça que le type de travail de cet essai, c'était l'exil intérieur, mais comme ça pouvait faire un clin d'œil trop appuyé à la psychologie ou à la psychanalyse, ça pouvait donner lieu à un malentendu. Donc c'est devenu le couloir des exilés, qui est un terme qui venait souvent de la part des gens avec qui je menais mes recherches. On est dans un couloir, on n'en sort pas, etc. Et donc j'ai écrit ce texte avec une certaine, en toute modestie, une certaine créativité personnelle, un peu plus que de l'écriture de chercheur. Voilà. Avec une tentative, non pas compassionnelle, mais empathique, d'écrire, de réussir par l'écriture à dire ce que peut être ce ressenti de ne pas arriver au bout d'un chemin, être en prise sans arrêt à des manifestations de haine, parfois violentes, parfois à l'indifférence, etc. Et donc, il me semblait, c'était en 2011, ça faisait 10 ans au moins que je travaillais sur ces histoires de migrants, j'avais beaucoup de récits, donc de toute façon mon écriture était déjà un peu une synthèse ou presque une subjectivation personnelle de tout ce que j'avais pu entendre, regarder, enregistrer, etc. Donc je pense que, je sais puisqu'il me l'a dit, que c'est que Marcel Bozonnet a été touché par ça, a été interpellé, et il s'est dit que ça c'est un texte à dire en théâtre. Donc il y avait d'abord l'idée de le dire. Et donc, les premiers échanges qu'on a eus consistaient pour lui, alors pour ceux qui connaissent Marcel Bozonnet, c'est un acteur absolument extraordinaire, qui tient un peu du saltimbanque, qui voudrait faire du théâtre de rue toujours, qui a ça comme un peu comme idéal, l'esprit du théâtre populaire, enfin, il est très engagé, voulant que le théâtre aille dans la rue. Et donc, c'est tout à fait passionnant. Et donc, les premières séances de travail ont été, pour lui, une manière de dire « c'est un texte qu'il faut déclamer, donc je vais le déclamer ». Et donc, il se mettait, après, il imaginait des mises en scène minimalistes de quelque chose qui pourrait attirer l'attention des spectateurs. Très bien, en mettant un ballon d'hydrogène, et je me mets dessous, et les gens viennent voir, et je déclame le texte, et j'interpelle, moi, le nomade, j'interpelle les gens d'ici. C'est un petit peu ça, c'est devenu ça, le leitmotiv un petit peu du texte mis en scène, finalement. C'est celui qui est sur la frontière interpelle ceux qui sont d'ici. Et donc ça a été une première forme. Ensuite, il y a eu tout un travail avec Catherine Portevin, journaliste, qui est très habituée à ce travail avec les sciences sociales, les sciences humaines, qui a retravaillé le texte. Donc on a commencé à retravailler le texte pour en faire un texte qui pouvait être mis en scène. Et puis ça a duré beaucoup de temps. Il y a eu une première tentative, on va dire, à la Maison de la Culture d'Amiens, sous la forme à la fois déclamatoire et puis de l'interpellation par l'acteur, où Bozonnet était seul en scène, et où il voulait aussi incorporer lui-même tout ce qui était ces sensations de l'angoisse, du stress, de la fatigue, de la peur, etc. Et donc voilà. Ensuite, il est passé à autre chose, il y a eu d'autres histoires. Enfin bon, bref, Donc depuis décembre 2015, Catherine de Portevin et moi-même, il nous a invités à reprendre le travail avec lui, et là, avec deux acteurs, dont une danseuse de crump. Alors le crump, moi je ne savais pas ce que c'était. Le crump, c'est une danse absolument incroyable, qui vient du ghetto américain, comme on dit, et qui consiste à exprimer dans le corps des ressentis très violents. Voilà. Et donc il lui a semblé, et je pense qu'il avait parfaitement raison, que cette forme du crump pouvait exprimer tout ce qui était dans cet essai. Donc il s'est mis à travailler, et puis moi aussi, et puis là on a retravaillé plutôt sur essayer de traduire quelles étaient, comment serait la meilleure manière de faire percevoir des choses qui étaient ressenties comme la vie insupportable, la vie précaire, l'impossibilité d'avancer un chemin, l'énergie, le désespoir, la dépression, toutes ces choses-là. Voilà. Et donc ça repose finalement, on pourra y revenir, je ne vais pas monopoliser la parole, ça repose finalement maintenant sur une sorte de dialogue entre deux acteurs. Donc je n'ai pas bien préparé, je vais m'excuser parce que je n'ai pas le nom des acteurs, des actrices en tête, mais un acteur qui joue l'homme sur la frontière et qui interpelle toujours cette interpellation, qui interpelle les gens d'ici, et qui joue avec la danseuse de crump, qui est aussi actrice en même temps, et qui dit, c'est comme ça que dans la pièce se retrouvent des récits que j'ai pu recueillir et que j'ai mis dans cet ouvrage-là et dans un autre que fait par des migrants de leur parcours. Et donc on retrouve ça finalement dans la bouche de cette actrice, et puis on trouve aussi chez l'un et les autres, chez l'un et l'autre, on trouve des éléments d'analyse, des éléments de compréhension qui n'auraient pas du tout été évidents pour moi ou pour n'importe qui de dire comme ça. Quoi. Le conflit entre le local et le global, qu'est-ce que c'est que l'autochtone, la mort, le rapport avec la mort dans ces situations de frontières. Et donc, vous verrez, je vous invite, quand ça sera à Paris, à aller le voir, il y a un personnage de la mort qui arrive comme ça à un moment donné dans l'histoire. Et donc, je pense que, voilà, moi, je suis après dans la position du spectateur, complètement émerveillé par le travail de Bozonnet et de son équipe. Mais effectivement, c'est une des manières, voilà, je pense que c'est une des manières de rendre public un travail de recherche. Mais bien évidemment, c'est aussi moi-même, là, en dehors de tout égo truc narcissique, etc. C'est bien évident que c'est mon écriture, c'est moi-même, c'est mon envie de faire partager ça. Tassadik pourra raconter la même histoire. On n'est pas forcément, tous les chercheurs en sciences sociales n'ont pas forcément, ou tous les intellectuels qui sont intellectuellement engagés n'ont pas forcément envie de ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'occupe depuis très longtemps. La recherche que je fais, elle est publique. Elle est pour être publique, sinon elle n'existe pas. Donc ça, c'est une des manières, voilà. C'est une des manières, et je trouve une très belle manière, mais là, grâce à Bozonnet et à son équipe, de me permettre de faire un peu plus de cette anthropologie publique.
Merci Michel Agier. On va continuer ce petit périple à travers différentes expériences d'écriture théâtrale à partir d'ouvrages sciences humaines avec Tassadik Yassine. Donc vous explorez les modes de relation, de domination propres à la société algérienne, les relations de genre, les relations de domination. Et vous êtes interrogé à travers cet ouvrage qui s'appelle « Chacal ou la ruse des dominés » aux origines du malaise des intellectuels algériens. Donc c'est un ouvrage qui est paru en 2001. Et un jour, j'imagine, vous avez rencontré Jérémy Béchon, qui lui a une grande expérience, on va dire, d'aller voir des universitaires, des chercheurs, notamment, vous avez travaillé avec Noiriel, avec Benjamin Storin, de mise en dramaturgie, de mise en récit, mise en scène d'ouvrages publiés par des chercheurs. Et donc tous les deux, vous avez conçu un spectacle, une sorte de présentation, conférence dramatique. Un spectacle, d'accord, qui suit son petit bonhomme de chemin. Donc, vous vouliez commencer par nous lire quelques textes.
Je voulais dire quelque chose avant. Bon, merci en tous les cas de nous avoir donné l'occasion d'être là. Et je dirais simplement, Marie Poinçon a oublié que j'ai dirigé une revue qui s'appelle Awal. Et pour justement les besoins de la conférence, Awal veut dire la parole en berbère. Et tout ce travail-là, justement, c'était comment redonner la parole à des populations, enfin surtout cette partie de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le monde berbérophone, n'a pas été reconnu, si vous voulez, dans sa langue et dans son identité, entre guillemets, il faut faire attention avec ce terme. Donc voilà, et dans sa culture, si vous voulez, et ce n'est que dernièrement que la langue berbère est reconnue comme langue officielle en Algérie, au Maroc. Donc c'est tout un travail, justement, de comment redonner la parole par le travail scientifique. Donc la recherche scientifique, en fait, sert, voilà, comment essayer de redonner au mieux, comment de décrire au mieux une situation, sans verser forcément dans le militantisme, en travaillant donc sur les matériaux que fournit l'anthropologie. Donc c'est ça la démarche. Et donc voilà, je remercie ici Corinne d'être là. C'est grâce à la fondation de la Maison des sciences de l'homme, à l'époque dirigée par Clément Serret-Heller, et donc avec le soutien de Bourdieu, que cette revue a existé. Donc parallèlement à la revue, bien sûr, j'ai fait mon travail. Et deux livres sur l'exil et la production de l'exil. Un qui s'appelle Chérif Radam ou l'amour de l'art. C'est comment, si vous voulez, cette aventure humaine, cette aventure de l'exil, n'est pas, de mon point de vue, n'est pas simplement une rupture négative, elle est productive de quelque chose, elle est productive de sens, et je dirais même, cet émigré extraordinaire va refonder complètement la chanson kabyle en faisant de... Il était devenu chef d'orchestre, il a fait de la musique classique à 28 ans. Donc ce sont ces itinéraires-là qui sont tout à fait spectaculaires, qui m'ont intéressé. L'autre, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Piège ou Combat d'une femme. Là aussi, une femme immigrée qui ne savait ni lire ni écrire et se retrouve en exil, complètement muette, elle disait. J'étais dépressionnée. Donc, en apprenant l'alphabet français, elle a tenu un cahier journal où elle raconte toute sa vie. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comment, si vous voulez, à travers ces expériences de l'exil, qui sont malheureuses au départ, mais qui créent quelque chose. Donc voilà, que ce soit l'exil interne, en Algérie même, puisque ces populations ont été privées de langue, ont été dominées de tout temps, pendant la colonisation, et pire encore, après les indépendances. Donc c'est vraiment un cri à l'existence. Et évidemment, et mon travail, je dois le reconnaître, je n'ai pu l'exercer en France. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc comment, par-delà la frontière, on prend conscience qu'on est un relais de quelque chose, qu'on porte quelque chose, et on essaye donc de le rendre au mieux par l'écriture scientifique. Voilà en fait mon travail. Et évidemment, on retrouve cette horrible domination qui s'inscrit partout. Elle est réelle, elle est ouverte, elle est larvée, elle est conflictuelle, mais aussi, c'est une domination symbolique. Donc on produit quelque chose. Et donc c'est comme ça que bon, j'ai fait beaucoup de choses. Et un jour, Jérémy Béchon est venu me voir pour que je fasse l'exégèse du livre de Bourdieu qui s'appelle « La domination masculine ». Voilà. Vous voulez que je vous explique ça? Bon, là, j'ai essayé d'expliquer la domination masculine comme je le pouvais. Et en partant, bien sûr, il a relu « La domination masculine » et c'est comme ça, c'est à travers Bourdieu qu'il a découvert mon existence. Il faut dire ce qu'il y est. Donc, en bas de notes, dans les petites notes de bas de page, il a découvert, en fait, voilà, que j'existais. À partir, donc, on a travaillé sur la domination masculine, il va vous en parler. Et on a travaillé après sur le chacal. Et le chacal, c'est un corpus de contes, mais c'est un corpus de contes qui relate un peu les fondements mythiques de la domination. Voilà. la domination, donc ces sociétés-là savaient ce que c'était que le rapport de pouvoir. Ce n'est jamais des rapports de pouvoir ouverts. Il y a de la domination, il y a de l'ambiguïté, il y a de la ruse. C'est tout un jeu tout à fait extraordinaire. Et les petits, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont forcément bêtes, ni qu'ils sont dominables, mais parce qu'ils produisent du sens pour pouvoir renverser le pouvoir. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'est drôle. Et je l'ai appliqué après aux intellectuels qui vont écrire pendant la colonisation, tout en s'inscrivant dans le monde colonial, tout en apprenant sa culture, sa vision du monde, comment est-ce qu'ils essayent de faire exister leur société malgré tout et de lui donner sens et vie. Voilà un peu ce que je fais.
Merci. Alors, Jérémy.
Oui, bonjour. Comme il a été dit, moi je suis auteur, metteur en scène au sein de la compagnie Manifestorien. Et donc c'est vrai que nous avons adapté le massacre des Italiennes de Gérard Moriel, les trois exils d'Algérie d'après Benjamin Stora. J'ai découvert les textes de Tassavis Yacine à travers la domination masculine, que nous jouerons d'ailleurs le 22 janvier à la Bellevilloise avec l'association Trajectoire. Et à partir de là, donc j'ai ensuite découvert Chacal ou la ruse des dominés, que j'ai adapté, qui est une adaptation un peu différente des autres opus, puisque sur les autres opus, je tiens à garder les terminologies scientifiques, à les faire comprendre d'absolument tout le monde, mais je garde aussi cette terminologie spécifique, qu'elle soit bourdieusienne ou qu'elle soit celle de Noiriel, de la socio-histoire. Alors que dans Chacal, à l'initiative aussi de Tassadit, elle m'a dit, elle avait déjà vu des travaux de mise en scène, et elle nous a dit, à la comédienne et moi-même, Virginie Aymon, qui fait un travail d'adaptation au même titre que moi, « Surtout ne fais pas dans le savant ». Puisque c'est Chacal ou la ruse des dominés, c'est un écrit scientifique extrêmement précis, mais qui est sur la poésie populaire orale, et donc qui est pour les enfants, et qui permet d'avoir deux niveaux de lecture, le merveilleux, le féerique pour les enfants, et ensuite tout ce jeu de domination, d'intériorisation des structures de domination auxquelles ont accès, et donc le monde politique qui est davantage sur les adultes. Et donc on a réécrit à partir du livre de Tassadit, ou en tout cas j'ai tenté de réécrire, une pièce qui puisse être justement à deux niveaux, puisque dans l'œuvre de Tassadit, il y a d'une part les contes, les fables, la mythologie, et ensuite l'analyse savante, donc les concepts qu'elle peut tirer et qu'elle prouve ensuite à travers les trajets des intellectuels algériens. Voilà.
Vous aviez préparé quelques extraits, vous voulez les lire? Donc ce sont des pièces à un acteur, c'est ça, la plupart du temps?
Ouais. Ça dépend. Je vais me mettre à ta place.
D'accord.
Oui, je pensais que c'était important de faire une lecture parce que comme je travaille beaucoup en sciences humaines, j'ai parfois tendance à être interrogé sur des concepts aussi, et je ne suis pas un chercheur, donc j'essaie de garder ces spécificités. Merci. Je vais y arriver.
Ce sont des extraits qui se situent à quelle partie de la pièce?
On va commencer par le début. Donc la scène, la scénographie est constituée d'un cercle de terre. Et c'est l'unique décor que nous avons parce que nous n'avons pas les moyens de Monsieur Bosonnet. Mais je pourrais en parler par la suite parce que c'est intéressant les rapports de domination dans la culture aussi. Mais ce serait un autre débat.
Tout à fait.
Même si bien entendu, je respecte beaucoup ce travail. Je suis très content d'être avec Michel Agier aujourd'hui. Donc la pièce commence.
Bosonnet n'a pas de sous, là. Vraiment, c'est une petite troupe, des comédiens voyageurs qui courent après les financements sans arrêt.
Mais eux aussi, ils courent, vraiment.
Non, c'est assez intéressant, mais c'est tout un débat à mener. Ouais. Donc une femme entre sur scène. Donc excusez-moi, vous n'avez pas la femme, mais bon, vous pouvez l'imaginer. Une jolie femme entre sur scène. La première fois que j'ai débarqué la France, c'était dans la tête des paysans kabyles. La France, elle disait d'eux que c'était des indigènes, qu'ils avaient la mauvaise éducation, la mauvaise langue, qu'ils n'avaient pas d'histoire. Bah, je vous dis tout ça, moi, c'était il y a plus d'un siècle. Hein. On dirait pas comme ça. Hein. Donc là, c'est une belle femme. On dirait pas comme ça. Hein. Si j'ai entendu des sons horribles venir tout droit de vos cités. Alors je suis sorti de mes montagnes et je me suis jeté, moi, dans le vent de vos plaintes. J'ai traversé les dunes, j'ai traversé les eaux, et je suis arrivé jusqu'ici. Jusqu'à vous, à la péniche Antipode. Je voulais savoir, moi, pourquoi ce que j'avais entendu, c'était si triste. Et puis je me suis dit que je pourrais peut-être encore vous aider. J'en connais tellement, des histoires. Et t'as dit, t'en connais beaucoup, d'histoires. Parce qu'avant d'en être là, à votre époque, avant Marseille, avant la France et l'Algérie, j'avais la mienne d'histoire, à moi, en Kabylie. Et là, le cercle se met à vivre par la lumière. En Kabylie, c'est de là que tout est parti. L'origine du monde, la naissance. J'étais Emma Ndounit. J'étais la première mère du monde. Je l'ai enfanté, le monde. J'ai rempli d'eau un grand plat en bois et j'ai remué, remué, remué avec les dents d'une faucille, remué, remué jusqu'à ce que les bulles se forment à la surface, s'élèvent dans les airs et se transforment en nuages, en étoiles. Le soleil y pousse un cri et y tombe dans l'eau du plat. Tout autour, ce fut les cils, le ciel. Cette grande écuelle pleine d'eau était le premier miroir du monde. Les Kabyles s'en servaient bien avant ceux des Européens et des Arabes, hein. Oui, bien avant de vouloir leur ressembler. J'étais Emma Ndounit, d'avant les frontières et les lois. Dans mon monde, à moi, la pierre, l'eau, la pierre et la terre y parlaient, comme vous et moi. Une seule et même langue. La vie de vos ancêtres avait un autre rythme. Vous leur ressemblez d'ailleurs, surtout toi, Tassadit. Pas possible, comme deux gouttes d'eau. Dans mon monde, à moi, il n'y avait ni fort ni faible, ni riche ni pauvre. La femme était l'égale de l'homme, c'est dire, non? L'homme était l'égal de l'animal, l'animal était l'égal des plantes. Chacun avait sa propre puissance qu'il savait partager. J'avais appris aux femmes et aux hommes à vivre sans travailler. Il suffisait de demander aux tas de caillasses de se rassembler pour bâtir les quatre murs d'une maison, sans loyer ni crédit, hein, attention. Et si vous vouliez que le feu brûle dans la cheminée, il suffisait d'aller vous promener en forêt et de demander au bout de bois de rejoindre le village. D'ailleurs, c'est en allant chercher le bois que cette perfection, elle s'est déchirée pour moi. Ah, ils me l'ont fait porter, le chapeau. Ils ont dit que c'était entièrement de ma faute si plus personne ne se comprenait plus. Voilà comment ça s'est passé. Je ramassais le bois, donc les fagots de bois s'organisent tout seuls, puis je monte sur le fagot pour qu'il me ramène au village, sauf qu'en chemin, et là, elle lâche un P absolument tonitruant qui est repris par plusieurs enceintes en même temps, le fagot de bois. Mais tu m'as pété dessus. J'ai pas rêvé, là, elle m'a pété dessus. Mais tu es une sétoute, toi, une sorcière. Et voilà, le fagot de bois offusqué, il me lâche et il me précipite dans un trou profond. Ma chute est longue, interminable, ma chute inverse le monde. Et lorsqu'enfin je touche terre, et là on entend un essaim de phonèmes, de phrases en espagnol, en kabyle, en arabe, en français. Vous entendez là, vous entendez toutes ces langues échappées, dispersées. Et bien depuis, plus personne n'y se comprend plus. Et ce fut un nouvel ordre, celui des hommes. Après ma déflagration, ben ça va, c'était pas Tchernobyl non plus, hein. Les hommes, ils m'ont mis l'Est en Ouest. Chacun sa langue, chacun son sang, chacun son territoire. Et ils m'ont renié. Ils ont pris les rênes et ils m'ont chassé pour la division de l'ordre. La division entre les humains et les animaux. La division entre le haut et le bas. Entre les mâles et les femelles. Entre la culture et la nature. Fini la première mère du monde. Fini l'enchanteresse. Les hommes, ils m'ont chassé. Ils m'ont laissé seul, dans les montagnes, là où les crêtes grattent sans cesse les ténèbres de l'orage. Un pays étroit, tordu, miséreux. Les hommes, ils m'ont exilé. El Horba. Je suis devenu Sétoute, la sorcière. À cette époque, les animaux, ils parlaient encore comme vous et moi. Alors les animaux, ils se sont dit que maintenant que les humains, ils allaient devoir travailler, ils allaient devenir de dangereux prédateurs. Alors les animaux, ils se sont tous réunis et ils ont juré de ne plus se croquer. Pour vivre en paix, ne plus jamais s'entre-dévorer. Alors les animaux, ils ont tous voté, à pattes levées. Et ils ont choisi la facilité, le lion comme roi. Alors le fauve s'installe dans ses quartiers, dans la plus belle des forêts, avec tous les larbins qui l'ont sacré, le sanglier, le chacal, la poule, et tous en échange de sa royale protection lui doivent des services. Le sanglier sert de matelas au lion, la hase d'oreiller. Chacal de couverture. La poule lui donne des œufs, la vache lui donne du lait. Mais ce contrat qui est lié au roi cachait une autre vérité sanglante qui explosa un jour à la face de Chacal par un éternuement du roi. Ça a débuté comme ça. Je vais arrêter là parce que c'est pas le lieu de faire du théâtre. Pour la suite, on va justement voir le renard et le chacal.
Et l'exil après de...
Et là, on a vu déjà l'église de la Mère du Monde. Je vais peut-être arrêter là pour l'extrait, parce que j'avais prévu d'autres, mais bon, vous savez, je sais pas, comme vous voulez.
Le plus important, c'est l'assimilation.
Si vous voulez, le chacal, à partir de là, va peu à peu monter les animaux les uns contre les autres. Et son argument, c'est qu'il va faire découvrir qu'en fait, le lion qui devait protéger ses citoyens leur dévore la cervelle. Donc il y a tout ce jeu symbolique de l'assimilation du pouvoir. Un autre passage, donc la perdrix vole passer le message aux animaux, tous la savent sincère, tous entre un à un dans l'antre du lion. Aucun n'en ressort vivant. Arrive enfin le tour de chacal. Salut, roi des animaux, ça va ? Le lion. Entre, Ben Yacoub, entre, que nous donnions le baiser de la paix. Ah non, je suis désolé, je crois que ça va pas être possible. Là, j'ai trouvé des traces d'entrée, mais des traces de sortie, il n'y en a pas. C'est bizarre quand même, non ? Alors je te fais plein de bisous de loin, d'accord ? Sois maudit, traître. Ah non, je suis pas d'accord, qui est le véritable traître ? Hein ? Nous t'avons élu pour que tu nous protèges et non pour que tu nous dévores la cervelle. Moi, je n'ai fait que rappeler aux animaux que tu étais au pouvoir grâce à nous, et non le contraire. Maudit, parjure. Là aussi, tu te trompes. C'est qui a commis le véritable parjure ? Non, mais c'est vrai, quoi. Toi, tu as toi-même prouvé que ton règne n'avait rien de naturel. Tu ne respectes pas la loi. Que les crimes que tu m'as fait commettre par les meurtres de tous ceux que tu as livrés te restent sur le cou au jour du jugement dernier. Le lion bondit sur chacal. Chacal évite la charge, mais le lion lui arrache la queue. Te voilà marqué, chacal. Désormais, entre ta postérité et la mienne, la guerre est déclarée jusqu'à la fin du monde. Ne reviens jamais, chacal. Je te traquerai dans toute la Kabylie pour te briser les os et te dévorer la cervelle. Je te maudis, chacal. Je te condamne à l'exil. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il y a des tas d'autres passages. Je vais tomber sur un animal encore plus malin que lui, qui s'appelle Mohan. Puis il faut savoir que cette dualité-là est très importante, puisque chaque personnage est double. Et chacal s'appelle Ben Yacoub, donc fils de Jacob, et il s'appelle aussi Mohamed, donc du nom du prophète. Donc c'est un vrai berbère, hein, en vérité. Et là, avec Hérisson, il va trouver plus costaud que lui. Ah, j'ai envie de le lire, mais non, je ne vais pas vous le lire.
Surtout là, quand il avale les petits marcassins.
Ouais, mais ça, je peux pas le jouer, t'as ça dit. Et Hérisson, ce qui est intéressant, c'était... Je vais y arriver. Que Hérisson, avant, c'était un homme. C'est-à-dire que dans l'exil, il y a cette dualité-là. Je pense que c'est à la fois la double culture, à la fois de pays, à la fois la frontière. Cet exil qui soit externe ou intérieur. Et c'est symbolisé par tous ces animaux-là. On a vu chacal à travers ces deux cultures-là. Il faut savoir que Hérisson, avant, était un très bel homme. Et le problème, c'est que c'était un très bel homme quand vous le jouez à la fille. Et du coup, les dieux l'ont puni en envoyant sur lui une carde. Donc, on a traduit ça par un peigne. Et du coup, Mohan est devenu un hérisson. Et chacal va prôner le mariage mixte. Ce qui est très intéressant aussi, c'est encore aujourd'hui, c'est une question. Donc, comment arriver à mêler plusieurs classes sociales ? Parce que pourquoi les lions restent-ils avec les lionnes, si ce n'est pour mieux nous dominer ? Donc, cette mobilité-là sociale, c'est celle aussi de chacal, c'est celle de l'intellectuel, c'est celle de l'exilé, à notre sens, c'est celle de l'immigré. Sauf que ce mariage mixte ne va pas se passer très très bien, ça va être un tirage au sort et ils vont marier le plus bête, l'âne, et le plus intelligent, chacal. L'âne va tomber avec la jument, donc ça va bien se passer. Par contre, chacal va tomber avec la chamelle. Et le problème de la chamelle, c'est qu'elle est docile. C'est bien ça, pardon. C'est pour lui, c'est bien. Ouais. Elle est belle, elle est noble, elle est riche, mais elle est très grande. Donc, est-ce qu'elle baraque pour... Vous voyez, c'est un véritable problème pour le... C'est un véritable problème pour chacal. Du coup, il va pas pouvoir la monter. Donc, il y a tout sans cesse ce jeu qu'on retrouve d'ailleurs dans l'analyse bourdieusienne de la domination masculine, hein, du haut et du bas, de la position sexuelle. Tout ce monde-là symbolique habite ces contes-là kabyles à la lecture de Tassadit, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, qui renvoie à cette question migratoire aujourd'hui, c'est que lors du mariage, Chacal ne va pas respecter les honorables règles de la Kabylie, qui sont celles de la générosité. Et donc on ne peut pas promouvoir une révolution si l'on n'est pas capable d'être généreux chez soi. Et donc les dieux vont lui à nouveau attirer la foudre sur lui, et il va être à nouveau exilé. Et dans ce dernier exil-là, il va rencontrer l'allée et les petits marcassins. Donc à chaque fois, on descend dans l'échelle sociale, et l'allée est extrêmement stigmatisée, elle est pauvre, et tout le monde se moque d'elle, elle est sauvage, pauvre, et elle a beaucoup de portée. Et là aussi, on retrouve cette question des immigrés qui font beaucoup d'enfants, qui se reproduisent. Donc à chaque fois, cette logique, c'est très intéressant de le retrouver. Chacal va...
Les maîtres d'arabe.
Et Chacal va se faire passer pour le maître d'arabe, parce qu'il est seul, il a très très faim, et du coup il va proposer à l'allée de les éduquer. Parce que tout le monde a droit à l'éducation, même vous, madame l'allée. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévorer les petits, les marcassins, Et là, on trouve encore une des questions qui est en lien avec les questions migratoires, c'est-à-dire, Tazadi t'a parlé au niveau de la langue berbère au début, c'est quelle éducation est possible encore aujourd'hui? Est-ce qu'on va enfin laisser aux exilés, aux immigrés, le droit à une double culture? Ou est-ce que l'éducation va passer par la dévoration? Donc cette dévoration symbolique-là existe encore, qu'elle soit sur la langue berbère, qu'elle soit sur la langue occitane provençale, il n'y a pas longtemps, qui était encore passée au savon par certains instituteurs. Et ces violences-là, on entend sans cesse pourquoi ils parlent dans telle langue, pourquoi ils ne font pas l'effort de s'intégrer. Quelle intégration pour nous aujourd'hui promouvoir si elle n'accepte pas une diversité et elle ne marque pas justement cette richesse-là au prix d'un modèle unique qui est extrêmement dangereux, comme on l'a vu en France, à mon avis, et en Algérie.
Oui, et dans la pièce, donc, le maître, c'est plus le maître d'arabe, c'est l'instituteur de la République, Troisième République française, donc, et avec des enfants de toute nationalité. Un Algérien, un Portugais, un Espagnol, voilà, et donc l'actrice, voilà, à chaque fois, elle dévore un des petits, parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Il n'y en a qu'un seul qui arrive à sauver, je ne me souviens plus lequel, qui se cache dans... Mais sinon, tous les autres passent par le ventre, justement, de Chacal. C'est la seule manière pour eux d'exister dans le pays, c'est-à-dire en effaçant toute trace de leur histoire, ancestrale. Quoi. Et c'est vraiment magnifique, parce que, voilà... Et puis, en plus, l'allée, elle s'appelle comment?
Madame Beaubois.
Madame Beaubois, voilà, vous voyez qui c'est. Voilà. Madame Beaubois, mais bon.
Voilà, je vais laisser la parole. Juste peut-être pour ajouter, si on a fait ce travail-là, ça a été une coproduction avec la Cité nationale de l'immigration. Non, à l'époque, ça s'appelait la Cité nationale de l'immigration, donc le musée de l'immigration en 2012, lors. De l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et c'était important, du coup, d'avoir, à notre sens aussi, un apport de quelle culture arrive aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants, qui est un terme qu'Aleximus a réussi à déconstruire magnifiquement dans son livre. Donc comment ces immigrés, comment ces exilés ont aussi une culture? Puisqu'on a sans cesse des données par rapport à la sociologie, par rapport aux chiffres, parce que la France aime les chiffres, justement. Mais ces cultures-là ne sont pas gérées, ensuite, justement, on va aller crier au radicalisme, on va aller crier au problème de... Et nous, on pense que si on ne se remet pas à une tradition, le progrès est absolument impossible. On ne peut pas continuer à avancer d'un progrès qui nie absolument les identités multiples. Et la France a, depuis la Troisième République, un rejet total de cette diversité-là. Et bon, pour ça je parlais du théâtre, parce que je peux vous assurer que promouvoir l'histoire coloniale, c'est une véritable censure qui s'abat sur les compagnies qui traitent ce sujet-là.
Tassadi, on vous voyait réagir vivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez accompagné ce travail d'écriture? Est-ce que c'est une écriture à quatre mains, ou est-ce que Jérémy a proposé un autre récit qui articule totalement vos questionnements et vos résultats de recherche? Comment ça s'est passé concrètement, cette collaboration?
Bon, il a lu le texte et il a essayé, enfin il m'a proposé un premier draft, et il y a eu un aller-retour. Et donc moi, comment je le sentais, et justement il y avait ce souci chez moi de garder le côté frais, le côté oral, et de restituer ça aux gens. Parce que si on fait dire un texte savant avec des concepts que personne ne comprend, mais justement, à travers les mots de tous les jours, on arrive à comprendre la complexité, et même, je dirais, la philosophie, parce qu'il y a une philosophie profonde qui est extraordinaire. Vous avez pu le parler tout à l'heure du chacal et du hérisson. Et quand ils se promènent tous les deux, on voit toujours le chacal qui veut dépasser le hérisson. À un moment donné, l'autre lui dit mais le plus âgé de nous, la mangera. Qu'est-ce que dit l'autre? Mais moi, je suis né il y a 13 siècles, ou je ne sais pas quoi, avant le Christ. Et puis après, ils refont le jeu et lui dit mais c'est le plus jeune d'entre nous qui va prendre la fille. Et que dit le chacal? Lui dit moi, je suis né hier. Et que fait le hérisson? Tenez-moi, je vais naître. Il se met en boule, et puis c'est extraordinaire. Ce sont des images, mais des images qui ont du sens et qui parlent aux enfants et qui parlent aux adultes. Et c'est tout ce travail-là. Donc montrer justement que toutes nos analyses scientifiques puissent justement dans ce savoir qui est extrêmement important. Et si voilà, si on le fait, c'est un moyen justement de mettre à disposition quelque chose qui serait passé comme ça dans ce qu'on appelle le folklore entre guillemets, alors qu'il a du sens aujourd'hui. Et quand il avait joué à la Cité de Migration, je crois deux fois, non, c'était vraiment plein, et on était très contents parce qu'il y avait de tout, mais vraiment, toutes les populations qui caractérisent la France étaient là, et c'était formidable. Et je pense que la pièce le jouait à la Huchette en février, je pense. Donc on attend des réponses, on vous le dira.
Pour répondre à comment s'était passée l'adaptation, effectivement, il y a eu. Là, je redis encore une fois, c'est une pièce, parce que je ne l'ai pas dit, justement, c'est une pièce qui est à partir de 8 ans. Et on l'a joué devant, une fois on a joué devant 300 scolaires, j'étais comme ça, parce que j'ai entendu la meute arriver, je me suis dit, ils vont nous dévorer, ça va être complètement l'inverse qui va se passer. Et ça s'est très très bien passé, donc c'est à partir de 8 ans, à la différence des autres livres où on joue beaucoup en lycée, comme La domination masculine, mais qui sont à partir de 15 ans. Puisque, y a, à mon avis, voilà. Et sur cette réécriture-là, j'ai fait une première monture de texte que j'ai montré à Tassadis, et Tassadis me disait, mais quand c'est que tu parles, quand c'est que tu vas? Parce qu'en fait, j'étais beaucoup trop révérencieux des contes. Et en fait, elle m'a poussé à être un véritable translateur. C'est-à-dire que dans le conte, celui qui raconte le conte réinvente le conte. Et la culture traditionnelle, populaire, n'existe que si elle est aujourd'hui. Donc elle m'a beaucoup poussé à... Parce qu'elle savait mes positions, mes critiques sur l'État centraliste, sur une certaine éducation, quand c'est pas l'éducation populaire... Sur tout un monde social qui tend vers le monde carcéral, et elle m'a poussé à aller justement dans ce sens-là. Ensuite, on a joué une première fois, une sortie de résidence, et là, elle est venue avec Amastan, son fils, et il manquait quelque chose dans la pièce, on le savait. Et d'ailleurs, c'est Amastan qui m'a dit, mais tu dis pas le pouvoir est toujours du côté du plus fort, fut-il Baudet, fils de Baudet. Puisqu'à la fin, c'est le mulet qui est l'enfant de l'âne et de la jument, donc un être hybride, un métis. Il y a toute cette chose-là qu'on peut comprendre qui donne le coup de sabot final au lion. Donc on voit bien qu'un dominé, s'il a la force, est capable d'écraser un dominant. Mais il faut bien placer le coup. Ça, c'est sûr qu'on n'a droit qu'à un seul coup. Et cette phrase-là d'Amastan, nous, c'est devenu le mulet, mais ça a aussi fait avancer la pièce. Et ensuite aussi, elle m'a appelé, parce qu'avec les chercheurs, ça se passe comme ça. Moi, avec d'autres chercheurs, ils vous donnent juste une phrase, un truc, et après, vous devez vous démerder avec ça. Et en général, la phrase qu'ils vous ont donnée est déjà la clé. Et elle m'a appelé et elle m'avait dit, mais il manque aussi à la fin que tu dises, nous les dominés, nous les femmes, nous les démunis, tant que nous aurons la mémoire, nous serons là, nous aurons le pouvoir. C'est ce que nous avons remonté, et le spectacle évolue sans cesse après, en gardant bien évidemment la même trame.
Ce qui est extraordinaire aussi, c'est la tournée en Algérie, ça tu peux le dire, alors, c'est inattendu.
Oui, ça a été très très émouvant pour de multiples raisons, parce que moi je suis ce qu'on appelle un enfant de pied noir, sachant que pied noir est un mot assez bâtard, D'ailleurs, dans ma famille, c'est des authentiques bâtards, parce qu'il y a des Siciliens, des Espagnols, des Maltais, j'en passe. Et on a joué cette pièce à l'invitation de la Balade littéraire, qui est une association algérienne et qui est une association berbère, et on l'a joué à Béjaïa, au théâtre régional de Béjaïa. Ensuite, ça a été un moment très fort, puisqu'il y a eu une très forte aussi réaction du public, puisque du coup de pouvoir voir sur cette scène-là l'affirmation d'une culture qui est complètement niée à l'échelle nationale, enfin niée, le terme est un peu fort, mais qui est en lutte, en tout cas, à l'échelle nationale, c'était quelque chose qui était très important pour les bougiottes. Voilà.
Merci en tout cas, on voit que vous êtes encore très enthousiaste pour parler de cette aventure. On va parler maintenant...